Chapitre 18. Dans la chambre close. Il ne fut pas aisé de faire admettre à Madame Clotilde Champieu ce qu'elle appela le coup de tête de Rosanne. Quand Madame Dupommier se présenta chez elle à 8 heures, lui apportant son déjeuner, l'explication fut longue et confuse. « A-t-on jamais entendu chose pareille? C'est une inconvenance! Rosanne est bien trop jeune pour soigner un garçon de 25 ans qui n'est même pas son fiancé officiel. Et puis, le danger? Car enfin, à ce que vous me dites, on est bien obligé de croire que c'est la diphtérie. Est-ce qu'Élie Mestru, ce vieux racorni, ne suffisait pas comme garde-malade? Il n'est plus à l'âge où l'on prend la diphtérie. Alors, Rosanne nous abandonne, vous et moi. Comptez sur la fidélité des gens. Ne suis-je pas malade, moi aussi? Oui, vous êtes sourde, c'est bien commode. On ne peut pas discuter avec vous. Me voyez-vous seule dans cette grande maison avec une sourde? Le tonnerre nous tomberait dessus sans qu'elle s'en aperçoive. Quelle situation! C'est à se jeter même dans les bras des Sébastiens. » Et, de fait, Madame Sébastien ne tarda pas à lui offrir cet asile. Vers 10 heures, elle arrivait en grande hâte, en mitouflée dans ses fourrures qui sentaient encore la naphtaline. Or, Madame Clotilde craignait cette odeur, on lui avait dit qu'elle était toxique. L'antipathie qu'elle ne gouvernait plus s'en aggrava. « Pour rien au monde, je ne voudrais être indiscrète, » dit Madame Sébastien, exagérant les précautions. « Nous apprenons que Rosanne est installée chez les Mestru. Ils sont là-dedans comme des lépreux. On leur passe les provisions par les fenêtres. Cette maison est contaminée du haut en bas. Et Louise Duplan, notre seule journalière, y est encagée avec les autres. Comment allez-vous remplacer Rosanne, pauvre grand-maman ? Madame Dupommier doit être terriblement fatigante pour vous, avec sa surdité. » « Nous nous entendons très bien, » répondit Madame Clotilde. « Mais vous auriez besoin de quelque chose, vous vous sentiriez incommodée la nuit. Myriel est toute disposée à s'installer auprès de vous, Sébastien également. Moi aussi, nous quitterions tout pour vous obliger. » Ah non, cette note-là était intolérable. Madame Clotilde s'écarta un peu de la zone de la naphtaline et dit « Je ne dérangerai personne, merci. Je ferai une absence, c'est le plus simple. J'aime Lausanne à cette saison, j'y passerai quelques semaines. » « Et Madame Dupommier, sourde comme elle est, restera seule au château ?»« Myriel pourrait peut-être s'installer auprès d'elle, » fit Madame Clotilde malicieuse. Madame Sébastien, déjà haute en couleur, s'empourpra. Mais tout à coup, un éclair leur dévoila à toutes deux l'imprudence de l'une, l'occasion pour l'autre. « Myriel le fera volontiers, » répondit Madame Sébastien avec onction. « mais non, c'est tout à fait superflu, » protesta Madame Clotilde effrayée. « Il suffit que vous l'ayez souhaité un instant. Myriel sera ravie de vous rendre ce service. » « Je vous en prie, pas un mot de plus, je rentre. » Myriel prépare en un tour de main ses petites affaires, elle est ici avant midi. Elle vous aidera à vos emballages si vous vous décidez vraiment à partir. Et si vous restez, elle vous tiendra compagnie. » Enfin, enfin, la première victoire, le premier bastion emporté. Récompense et couronne d'héroïques efforts. Madame Sébastien vola plutôt qu'elle ne marcha pour entrer chez elle. Un fluide de joie l'enveloppait et crépitait presque en étincelles aux pointes des poils de sa fourrure. Myriel, installée dans la place, mais c'étaient tous les Champieux défilant à leur tour par la brèche. Myriel consentit avec une indifférence qui n'était pas feinte. La maladie de Laurent lui obstruait l'horizon. Dès qu'elle en avait appris la nouvelle, un horrible conflit l'avait envahie. Elle avait eu une de ces pensées vraiment hideuses qu'on n'avouerait à personne. « S'il meurt, Rosanne ne l'emporte pas sur moi. » Alors, elle vit bien qu'elle n'aimait pas Laurent. Elle voulait l'héritier, elle convoitait la position, moins encore la position que le monopole. Si Laurent mourait, il ne ferait pas d'autre reine. Elle perçut très clairement qu'il n'y avait en elle aucune tendresse, rien que l'aride ambition et l'égoïsme sec. Sa seconde idée fut « Jamais je ne m'exposerai au danger de contagion comme Rosanne le fait, ni pour mon père, ni pour ma mère, ni pour Louis. Non, je ne pourrai pas, j'aurai trop peur. Je serai même bien aise de m'éloigner de la maison Mestru qui est trop proche de la nôtre. Cependant, tandis que ses mains voltigeaient, légères, parmi les menus objets de toilette, les flacons, les brosses, elle s'arrêtait à chaque minute, comme paralysée par une vision. Laurence sur son lit, se débattant contre l'étrangleuse, et Rosanne, qui s'était enfermée volontairement, qui respirait cet air, ses germes. Myriel disait à haute voix, « Pourvu que Laurent vive, pourvu qu'ils vivent tous deux !» Elle disait cela pour tuer la petite voix diabolique qui, au fond d'elle, murmurait juste le contraire. Et pour se rassurer, pour détourner aussi une rétribution à laquelle elle croyait, ayant de la piété, elle se répétait à elle-même « Je ne suis pas responsable de cette pensée qui vient de l'ennemi de mon âme. » L'horreur physique de la mort la secouait. Non, elle ne pouvait imaginer froid et sans vie ce beau Laurent robuste dont elle avait admiré la démarche souple, les grands mouvements tranquilles, et elle prenait pour une vraie souffrance de sympathie profonde ce qui n'était qu'une révolte de la chair. « Je ne suis pas sans cœur, non, non » criait-elle. « J'ai du chagrin, je le sens là, ça me serre, ça m'étouffe. » Ah, Rosanne, elle, n'avait pas besoin de se battre les flancs pour souffrir. Même dans les brefs moments où on l'envoyait dormir, son cœur déchiré ne cessait de sentir le mal de Laurent. Une pitié passionnée lui brûlait la gorge, tandis que ses yeux rougis épiaient les moindres ombres sur le visage aimé, devinaient, prévenaient la plainte ou l'appel sur ses pauvres lèvres crevassées où le son passait entrecoupé et rauque. Le médecin luttait par tous les moyens que lui fournissait son expérience et chaque matin, il multipliait ses prescriptions. Élie Mestru et Rosanne n'avaient pour ainsi dire pas un quart d'heure inoccupé. Quand ils se relayaient dans la journée, ce n'était pas pour prendre du repos. Le maître entrait dans la chambre de Laurence et il priait Dieu. Il priait peut-être aussi la mère, lui demandant d'intercéder pour son fils. Rosanne se réfugiait dans une petite pièce que Louise Duplan avait mise en ordre pour elle, lui arrangeant un lit sur un vieux canapé, mais elle n'y restait guère. Elle descendait à la cuisine et ses mains actives, machinales, s'occupaient à quelques besognes qui la distrayaient un peu. Les besognes étaient difficiles à créer dans cette maison démunie de tout. Rosanne préparait un de ses petits mets friands qu'elle faisait bien et le montait à Élie dans la chambre du premier où il l'avait introduite sans explication comme une chose qui va de soi. Puis elle allait reprendre son poste cher et douloureux. La nuit, elle avait obtenu de veiller en compagnie de Louise Duplan jusqu'à 1 heure. Ensuite, Élie restait seule avec son fils jusqu'au matin. Les crises d'étouffement s'espaçaient. Il semblait que 2 injections de sérum eussent amené une modification favorable quand, tout à coup, vers le 7e jour, la fièvre augmenta de nouveau et d'autres symptômes apparurent. C'était Louise Duplan qui, d'une fenêtre, faisait passer le bulletin quotidien à des gens anxieux, venus tout exprès, car Laurent et son père étaient entourés d'estime, sinon d'affection, et les nouvelles étaient répandues ensuite dans tout le village. « Ah, figurez-vous, » disait la femme du boulanger, tandis que Fanelli, assise sur un escabeau, s'essuyait les yeux, et que Madame Denisée oubliait de surveiller la pesée du pain, « figurez-vous que le mal recommence de plus belle dans un autre organe. Aujourd'hui, ce mal s'appelle diphtérie, on fait des injections. Autrefois, ça s'appelait angine coineuse et on faisait un trou pour le souffle. Ça se tenait dans la gorge, ça n'allait pas ailleurs. » À présent, ces couennes vont partout, elles voyagent dans le sang, elles l'empoisonnent. Ça n'en finit pas. Il paraît que Laurent souffre dans les jambes. Le docteur craint une flétibite. Imagine-t-on un beau garçon abîmé de la sorte? Il peut encore s'en tirer si le cœur ne fléchit pas. Fanelli sanglotait. « Rien de tout cela ne serait arrivé si j'étais restée chez le cousin. » Ces 2 hommes étaient habitués à une bonne nourriture, balbutiait-elle, écrasant ses larmes sur la paume de ses mains. Tous les jours, le bouilli, une bonne soupe saine. À l'hôtel, on leur a fourré des rôtis et des sauces, ça leur a gâté la digestion. Jamais je ne me pardonnerai. Vous vous souvenez du père Picard, madame Denisée? Il sortait de dîner au Guillaume Tell, il est tombé dans la cour. La mort a été momentanée.
Instantanée, voulez-vous dire, fit le boulanger qui avait des lettres.
Momentanée, instantanée, c'est pareil. Il ne faut pas chicaner sur les mots. L'un vaut l'autre. D'ailleurs, je n'accuse pas la cuisinière du Guillaume Tell. Mais je dis que des hommes qui changent leur régime s'exposent à des congestations. Et voilà Louise Duplan dans ma cuisine, dans mes armoires. Elle ôtera toutes les toiles d'araignée que je laissais pour mettre sur les coupures à l'occasion. La bonne de la cure entra. Elle venait aussi quérir les nouvelles du matin. Chaque jour, dans l'après-midi, M. Loumenet faisait sa visite à Élie, c'est-à-dire qu'il se postait derrière la maison Mestru, dans la cour de l'étable, et qu'il attendait de voir s'ouvrir la fenêtre de l'escalier. Élie y apparaissait un moment.
« Est-il mieux ?» demandait le pasteur.
« Il n'y a pas grand changement. Le cœur se fatigue, le germe infectieux semble se propager.
« Que puis-je pour vous ?»«
Rien, merci. Je viens d'envoyer Benz à la ville, il nous rapportera un ballon d'oxygène. » Si vous en aviez le temps, vous pourriez peut-être aller voir Madame Dupommier et lui dire que Rosanne se porte bien. Nous l'obligeons à dormir, à manger. Elle a un courage incroyable. Elle en donne à mon pauvre garçon quand il n'en a plus. Je ne sais pas ce que nous ferions sans elle. Merci de votre visite, Monsieur Liumenet. Pensez à nous de la bonne manière.
C'est ce que je fais et tout le village avec moi. Le jour de Noël, Laurent était au plus mal. Non que l'infection augmentât sa virulence, mais l'organisme semblait épuisé et ne se défendait plus. On pria à l'église pour le rétablissement d'un jeune frère dangereusement malade, et tous les fidèles en conclurent qu'il n'y avait plus d'espoir. Myriel sanglota tout haut. Elle communia, dans une contrition un peu dramatique des pensées coupables qu'elle se pardonnait maintenant, comme on se pardonne les tentations auxquelles on n'a pas cédé. Au sortir de l'église, elle parla à François Denisée d'un ton douloureux et doux.
« Notre pauvre ami, on n'ose plus espérer. »«
mais si, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, » dit François avec une émotion bourrue, plus sincère que la fine vibration de Myriel. La jeune fille hocha la tête.
Je voudrais le croire pour Rosanne, pour M. Mestru. »
Elle appuya un peu sur ces mots qui indiquaient son détachement personnel. Lentement, elle se mit à marcher et François, après une seconde d'hésitation, marcha à côté d'elle.
« Je passe à la maison avant de retourner au château, » dit Myriel, élégante et frileuse dans ses fourrures blanches.
« Vous devez bien vous ennuyer, tout au seul avec Madame Dupommier, dans cette grande maison. » prononça François avec sollicitude.
Je m'ennuie assurément, et j'y mourrais de peur si papa n'envoyait tous les soirs notre vieux Abraham pour nous garder. Il couche dans une des chambres du rez-de-chaussée. Tout de même, au moindre bruit, je tremble comme une feuille. Je n'ai rien d'une héroïne.
Ce n'est pas le courage qui vous manque, cependant, dans certaines occasions, dit François audacieusement.
Myriel leva vers lui ses cils blonds qui tamisaient le regard clair et aigu.
« Je ne suis pas brave, je brave, si vous comprenez la différence, » fit-elle avec un léger rire.
Il s'entendait parfaitement.
« Et je regrette, » poursuivit-elle, baissant de nouveau les yeux. « Après l'excellent sermon que nous venons d'entendre et qui nous invitait à la repentance, » Je regrette, je déplore, le tour que j'ai joué à Laurent Mestru pour le punir de s'ingérer dans les affaires de grand-maman.
C'était pour cela, murmura François, qui n'osait se montrer sceptique.
Je vous le confie, grand-maman évinçait papa, qui avait seul le droit, à notre avis, de s'occuper des réparations du château. Car enfin, le château sera à nous par la suite.
Ce ne serait que juste, dit François qui gardait ses doutes.
Nous étions tous vexés de voir les Mestru y fourrer leurs doigts, et alors, puisque le hasard m'avait mis à portée d'entendre grand-maman téléphoner à son notaire, l'idée m'est venue de brouiller les cartes. J'ai eu grand tort, je le reconnais. ajouta-t-elle d'une voix qui trembla délicieusement. À l'instant même, elle établissait en elle cette version de sa fraude, elle y croyait, elle effaçait d'un coup l'autre la vraie. Et François se disait « C'est bien possible, c'est même probable, en tout cas c'est plus convenable ». Il reprit, comme ils arrivaient au seuil de la maison Champieu, « J'ai aussi des regrets à vous exprimer, mademoiselle Myriel. »«
Nous sommes quittes, » répondit-elle.
Ils tournèrent les yeux vers les fenêtres de la maison Mestru, vers celle du second étage qui avait le rideau baissé. Myriel Champieu soupira. Pourrait-elle jamais endurer ce petit blond, un peu obséquieux, qui tortillait sa moustache dorée et qui roulait dans son esprit étroit des pensées qu'elle devinait narquoises ? Derrière les rideaux baissés, Rosanne était assise, une Bible sur les genoux. Elle avait lu les chapitres de la Nativité. Laurent, Élie et Louise Duplan l'écoutaient. Laurent avait les joues creuses, les yeux enfoncés, le teint gris et brouillé, maintenant que la fièvre de la nuit tombait. Il était faible, mais il avait toute sa connaissance. Il dit, remuant un peu la main sur sa couverture, « Quel triste Noël je vous fais !»« Mais pas du tout, au contraire !» protesta Louise Duplan, toujours pressée de parler. Qu'est-ce qui nous manque? La maison est bien chauffée. J'ai un bon petit bouillon de poulet qui mijote en bas pour vous. Votre papa et mademoiselle Rosanne auront leur dîner de Noël. Je vais leur mettre le couvert dans la belle chambre. » Elle était ouverte à chacun, cette belle chambre. Le sanctuaire était violet. Élie offrait tardivement, en holocauste, l'obstination maniaque qui lui tuait son fils. Et la bonne Louise ne dérangeait pas grand-chose. Elle avait posé le coffret sur un petit guéridon pour que la grande table fût libre. Elle avait trouvé dans l'armoire deux belles nappes et des serviettes qu'on n'avait jamais dépliées. Elle avait épousseté les meubles tout doucement en faisant de petites remarques à part elle. Quand Louise fut sortie, Élie se rapprocha du lit, prit la main de son fils entre les siennes. « Laurent, » fit-il d'une voix cassée et vieille, « si tout était bien allé, nous aurions communié ensemble aujourd'hui. Fais comme si nous avions pu communier. Pardonne-moi. » Il inclina son front sur la couverture. Ses mâchoires avaient un tremblement nerveux qu'on voyait entre ses doigts. « Vous pardonnez ? » murmura Laurent. « Vous êtes le meilleur père qu'un fils ait jamais eu. » « Non, non, ne dis pas cela. Je t'ai fait passer après ta mère morte. » Je t'ai condamné à vivre comme moi dans un deuil qui tenait de la folie. Pour rester dans mon deuil, j'ai laissé la maison tomber en ruine. Tu as vécu dans une maison misérable, malpropre, malsaine, une maison qui t'a tué finalement. Je ne me le pardonne pas à moi-même, mais il faut que tu pardonnes à ton père, Laurent. Nous mettrons le feu à la bicoque dès que je serai rétabli. » fit Laurent de sa voix faible, où néanmoins un peu d'excitation vibrait. « Parfaitement, il faudra une autorisation du conseil communal, » dit Rosanne avec sérieux. « Mon père fait partie du conseil communal à présent, n'est-ce pas ?» demanda Laurent d'un ton plus vague, comme retombant dans le sommeil. Rosanne lui fit respirer de l'oxygène, car il fallait éviter ces phases comateuses où le fonctionnement du cœur se ralentissait. Cinq minutes plus tard, Laurent reprit. « Père, montrez les plans à Rosanne. »« Quel plan ? » fit Élie à demi-voix, se tournant vers la jeune fille, car il avait une crainte tendre de fatiguer son fils, même par une question. « Notre maison de la Sapinière, » dit Laurent d'une voix plus forte, « la maison où tu mettras le jeune ménage. » Les yeux de sa fiancée se remplirent de larmes et Élie s'en alla vers la fenêtre pour cacher son émotion.